Bienvenue dans cet audio concernant la déesse vue d'un point de vue psychologique. Même si la science analytique ne nie pas l'existence d'une part mystérieuse qui nous anime tous, elle attribue les personnages des déesses et des dieux à des éléments de notre psyché que nous nommons archétypes. Notion d'archétype. Le terme archétype est très lié à Carl Gustav Jung. Pourtant, Platon, près de 2000 ans auparavant, évoquait déjà des types, des images primitives, telles une matière première inaltérable par le temps ou l'espace. Car, image commune à toutes les civilisations, à toutes les époques. Ces, j'ouvre les guillemets, grandes images qui structurent notre inconscient, fermez les guillemets, sont exploité par les analystes dans un but curatif. Du grec archétypos, qui signifie modèle primitif, l'archétype apparaît aussi bien dans les arts de tout un peuple que dans l'imagination d'un seul individu. C'est un contenu quasi indescriptible qui se manifeste uniquement par des symboles. On les retrouve dans les rêves, les contes, les mythes. Ce sont donc des modèles d'identité de comportements qui proviennent de notre intérieur. À l'inverse, les stéréotypes sont des rôles auxquels nous nous conformons ou que nous rejetons, des rôles de la société, c'est-à-dire des rôles extérieurs. Et finalement, nous nous retrouvons comme ça entre ces deux grandes forces intérieures et extérieures dans chacun des moments de notre vie. Si ces deux forces sont en accord, pas de problème. Nous pouvons exprimer très ouvertement ce que nous sommes à l'intérieur, c'est accepté. Dans le cas contraire, et il faut dire le cas le plus souvent, nous vivons de véritables conflits. Imaginons une femme possédant un archétype fort de type Artémis, la grande déesse indépendante, farouche, et que cette femme naisse et vive dans un environnement attendant d'elle qu'elle assume le rôle d'épouse et l'unique mission de prendre soin d'un futur mari, d'enfants et de maison. Conflit. Et que dire d'une femme née dans une famille de consoeurs très indépendantes, féministes, possédant en elle une force intérieure de type Déméter, c'est-à-dire de la déesse maternelle, voulant beaucoup d'enfants et cela très tôt dans sa vie. Conflit. Finalement, nous sommes tous des individus fatalement tiraillés entre les attentes de notre environnement et ceux de notre âme. Pour gérer au mieux notre cheminement, nous devons apprendre à mieux nous connaître intérieurement, pour ajuster, diminuer les conflits. C'est ce que permet finalement une étude et une intégration des archétypes. Et il en existe un nombre pratiquement indéfini, comme l'aventurière, la mère nourricière, la protectrice, la victime, l'artiste, l'enseignante, etc., etc. Sans même oublier les espèces animales qui ont des comportements spécifiques, prédateurs, herbivores, mammifères ou ovipares, etc. Ce sont aussi des archétypes, tout comme les nombres. Et c'est pourquoi je vais vous parler de l'archétype du chiffre 4. Les religions ne nous donnent a priori aucune indication de la puissance du 4, en tout cas les religions monothéistes. Nous avons bien le pouvoir ultime du 1 avec le Dieu unique, l'acquisition pardon, du 2 avec le bien et le mal, dont l'acquisition, cette connaissance du 2, nous a exclus finalement à jamais du jardin d'Éden. Donc ce 2, et puis le mystère du 3 également dans la Sainte Trinité. Et puis finalement, on passe directement de ce 3 aux 10 commandements, aux 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, etc. Le 4, il faut le dire, il est bien caché, mais il est là. On en trouve la trace dans les traditions plus obscures, volontairement dissimulées, ou dans des grandes croyances primitives. Et qui dit primitif dit forcément, dans notre société actuelle, dénigré. Dans son ouvrage sur la psychologie du transfert, Carl Gustav Jung explique que de nombreux contes finissent sur un état d'équilibre et d'unité très particulier, le double mariage. Lorsque les buts des héros sont atteints, que les intrigues sont résolues, un prince et une princesse s'unissent en même temps que leurs compagnons d'aventure, qui peuvent être des servants, des animaux et parfois même des esprits guides. Le royaume possède un nouveau roi, c'est-à-dire symboliquement un nouvel essor psychologique, un roi juste, durable, car entouré à jamais de trois autres figures qui vont lui apporter l'équilibre. Donc ce 4, on sent un petit peu que c'est un symbole d'harmonie, finalement. Mais pas seulement. Pour continuer à étudier son impact unitaire, nous devons partir de certaines affirmations archaïques, voire même mystiques, attention. Les paragraphes que je vais vous lire peuvent être entendus au conditionnel ou au présent, selon vos propres croyances personnelles. J'ai envie de prendre comme point de départ la carte, l'arcane 21 du jeu du tarot de Marseille. Alors, ce jeu, on ne le présente plus, il est archi connu, il est incroyablement utilisé de nos jours encore, surtout pour ses facultés divinatoires. De jeu, il est passé à voilà, instrument du divin. Et ça ne va pas vraiment jouer en sa faveur. Mon opinion personnelle sur ces cartes, c'est que ce sont de magnifiques outils de connaissance, mais de connaissance de soi. Bien sûr, il a également montré ses facultés divinatoires, mais on peut l'utiliser véritablement pour autre chose. Pour se connaître soi-même. La carte 21, appelée le monde, est la dernière du jeu. La dernière qui finalement est numérotée. Et elle est considérée bien souvent comme la meilleure, celle qui apporte l'harmonie, on y revient, et aussi le bonheur. D'un point de vue psychologique, c'est la carte du but atteint, de la rencontre avec soi-même. Dans tous les cas, elle est la carte qui manifeste le plus haut degré de réalisation. Je ne sais pas si vous connaissez bien le tarot de Marseille et si vous avez une petite idée de ce que représente cette carte. En tout cas, il y a avec cette vidéo une image. Et on peut voir sur cette carte qu'une femme est au centre, accompagnée de quatre animaux qui l'entourent. Un lion, un ange, désolé de l'avoir appelé animal, un taureau et un aigle. Donc ces quatre emblèmes qui correspondent aux emblèmes des tribus d'Israël. Et nous les retrouvons également dans le sphinx. La tête, le corps, les pattes et les ailes, qui correspondent donc à ces quatre animaux, entre guillemets. Ces animaux sont donc des symboles. Le lion est un animal sanguin, ce qui va le faire correspondre à l'énergie de l'émotion, l'émotionnel. Le bœuf, représenté en couleur chair, représente donc le corps. L'aigle qui se place au-dessus de la carte, au-dessus de tout, hein, c'est la raison, le mental. Et l'ange, forcément, c'est le domaine spirituel. Ces quatre sphères correspondent aux quatre dimensions de l'être humain, finalement. Le corporel, l'émotionnel, le mental, le spirituel. Le jeu du tarot de Marseille est vraiment d'origine étrange, incertaine. Les probabilités penchent pour que des auteurs initiés, soit gnostiques, soit alchimistes, qui l'aient créé, dans le but en fait d'aider l'humanité à comprendre et notamment de montrer finalement le chemin d'un initié. Et finalement cela est d'autant plus clair que l'on sait que le 4 est si important dans l'alchimie, si c'était effectivement des alchimistes, parce que la transformation en or comporte 4 stades, le stade noir, le blanc, le rouge et le jaune. Traversons l'océan qui sépare ces initiés moyenâgeux qui ont dessiné ces cartes jusqu'aux tribus amérindiennes. Donc un océan, et pourtant, elles utilisent aussi les mêmes couleurs, et dans le même ordre en plus, dans leur roue de médecine. À chaque couleur correspond également quatre directions et quatre animaux encore. Et ce qui est fou, c'est qu'on va retrouver l'aigle, mais les autres sont différents. Finalement, on est sur un autre continent. Il y aura l'ours et le bison qui vont se partager le reste du cycle quaternaire. Si les symboles se perdent, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui encore, ces directions ont un caractère sacré dans les traditions amérindiennes. Un chaman apprend à savoir à l'intérieur de lui-même où se trouve le nord lors de son initiation. Par exemple, ce phénomène est décrit très bien dans le livre de Maud Séjournant. Et finalement, c'est certainement à partir de cette relation entre l'homme et les quatre directions de la nature que provient cette espèce de caractère de sûreté et d'équilibre du chiffre 4. Dans les temps archaïques, où l'on n'était jamais certain de survivre ni combien de temps, la fiabilité de la course du soleil, des saisons, quatre saisons, hein, des éléments, quatre éléments encore une fois, et des directions, était une source de vénération parce que c'était fiable. En Europe aussi, les directions ont été fêtées par les Celtes, et même peut-être certainement encore avant. Et l'on garde en fait une espèce de grande roue celtique, qui est également appelée roue de Goethe, car remise un petit peu au goût du jour et par ce fameux mystique allemand, écrivain allemand. Et dans ces trous, on voit les quatre grands moments de l'année, c'est-à-dire les deux équinoxes et les deux solstices, qui correspondent chacun à une direction. Donc finalement, notre roue celtique correspond énormément à la roue amérindienne et à cette fameuse carte du tarot. Le 4 est donc l'expression à la fois de l'humanité, comme dans la carte du tarot, on a vu les quatre éléments de ce qui fait l'humain, mais aussi de cette fiabilité de la nature face à son chaos apparent. C'est donc à la fois l'harmonie, l'humain et la nature, et par extension, on pourrait dire finalement l'harmonie de l'humain dans la nature, en tout cas dans le monde, d'où le nom de cette carte finalement 21, le monde. Et voilà ce que représente le 4, l'humain dans la nature, et en particulier ici, la femme sur Terre. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment réaliser cette fameuse roue européenne, cette roue celtique, une roue vraiment colorée et joviale, dont la base, vous allez voir, est le 4. À très vite!